débat et controverse sur BFM Business.
Émission spéciale, les experts de la tech.
Bonjour
Nicolas Dose, Anthony Morel.
Faut que je reprenne l'habitude, à chaque fois je mange les jingles quand même, ça se fait pas. Bonjour, bienvenue. Alors l'actualité économique du jour, c'est une actualité un peu BFM Business, c'est une actualité de 25 ans, les 25 ans de l'émission De quoi je me mêle. L'émission a vu le jour en 2000, fondée et animée par François Sorel. Tout ça commence sur RMC, puis finira sur BFM Business avec désormais un rendez-vous hebdomadaire. Et il y aura à la suite de notre rendez-vous actuel, là que vous écoutez, un spécial De quoi je me mêle. Sur les 25 ans, justement. On va ouvrir cette émission avec un baromètre exclusif réalisé par Kantar pour BFM Business sur les 25 ans de technologie vues par les Français. Quelle est la technologie qui vous a marqué en 25 ans? Quelle est la personnalité de la tech française qui est encore dans vos esprits? Comment est-ce que l'intelligence artificielle est ou n'est pas? Et on verra d'ailleurs qu'il y a un écart générationnel sur ce sujet. Après, j'ai retenu des grands thèmes, mais fondamentaux. Est-ce que l'IA... Vous savez, il y avait les robots vont tuer mon boulot. Mais est-ce que l'IA va tuer mon emploi? C'est quand même une question que tout le monde se pose, et se poser la question est malgré tout légitime. On est en quête de gains de productivité. Où sont-ils? L'intelligence artificielle peut-elle justement faire rebondir ces fameux gains de productivité si mal en point depuis l'avant-Covid? Révolution ou désillusion? Toutes ces entreprises qui ont adopté l'intelligence artificielle, après un peu de recul, comment elles le perçoivent? Est-ce qu'elles sont satisfaites? Est-ce qu'elles sont déçues? Est-ce qu'elles se sont engouffrées sans savoir et aujourd'hui, eh bien, sont dans un état de désillusion ou au contraire, est-ce que cela a révolutionné leur activité? Et puis, il y a cette question de la souveraineté numérique plus que jamais posée dans un monde de plus en plus fragmenté. Donc, évidemment, on essaiera d'aborder cette question. Donc, j'ai fait appel au meilleur de la technologie sur BFM Business pour m'accompagner. Anthony Morel, bienvenue.
Merci.
Qui va co-animer ou même intervenir dans cette émission très largement. Également Frédéric Simotel de BFM Business.
Bonjour, Nicolas. Bonjour.
Frédéric, il écoute souvent les experts. Il m'envoie des petits textos pendant l'émission quand il faut.
Pour dire qu'on parle pas assez de tech.
Voilà. Oui, il me dit toujours, mais il faudrait faire de la tech, Alexandra Roulet, bonjour.
Bonjour, Nicolas.
Bienvenue. Professeur à l'INSEAD, membre du Conseil d'analyse économique et du Cercle des économistes. Ah, ben, il y a deux membres du Cercle aujourd'hui, puisque Jean-Yves Lorenzi est avec nous. Bonjour Jean-Hervé.
Et heureusement qu'il n'a pas dit les deux meilleurs.
Bon, non, je ne suis pas comme ça, moi. Fondateur du Cercle des économistes, président de l'Association pour les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Alors, ce sont les 3, 4 et 5 juillet.
Oui.
Voilà. BFM Business sera en direct le 4 juillet pour les experts et je pense d'ailleurs la matinale aussi depuis Aix-en-Provence.
C'était déjà l'année dernière le plus gros événement en Europe, économique et sociale ouvert à tous. Je rappelle qu'il y a eu 1 million de personnes qui sont connectées et cette année, mais... J'aurai l'occasion sûrement de le redire en se rapprochant de l'événement. Ce sera en réalité un saut quantique absolument majeur sur le. Enfin, quand je dis quantique majeur, je m'exprime déjà mal en matière de technologie, pardon. Et tout simplement parce que il y a au moins 2 événements essentiels. Le premier, c'est que nous transformons la ville d'Aix en ville de l'économie. Donc un peu comme il y a des à Blois, ils transforment la ville de Blois en histoire. Et deuxième aspect, il y a 38 personnes qui représentent 35 think tanks venus du monde entier. Donc il y a des Trumpistes, il y a des Chinois, il y a du Parti communiste, enfin il y a tout. Et donc ça donne l'image de ce que pourrait être dans les années qui viennent cet événement majeur. Je rappelle qu'il est gratuit, qui est donc ouvert à toutes et à tous, et qui est quand même une réunion de 3 catégories de personnalités, les académiques, nous tous, évidemment le Cercle des économistes, mais bien d'autres, des institutionnels, gouverneurs de banques centrales, ministres, il y aura peut-être une des personnalités les plus éminentes de notre pays, mais sûrement le ministre de l'économie, enfin tous les ministres qui sont toujours là. Et troisième catégorie, les chefs d'entreprise ou les patrons d'entreprise qui seront là aussi. Donc ce qui marche bien, c'est cette espèce de mélange, un peu comme d'ailleurs Nicolas vous fait avec beaucoup de talent.
Allez vous dire.
Il m'a demandé de dire du bien de lui. Donc
non, non. Non, il n'y a pas de politique. Bon. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est que c'est de plus en plus international d'année en année, puisque ça fait pas mal d'années que j'y suis, et c'est un élément d'évolution que j'ai parfaitement constaté. Bonjour Cécile Lejeune.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes la présidente de Kantar Inside France. Alors, vous avez signé une vaste enquête avec plein d'éléments et notamment des questions sur l'intelligence artificielle. Je fais un petit tour de table juste avant de commencer et de donner la parole à Cécile pour qu'elle nous donne les principaux enseignements qu'elle a retenus. Est-ce que vous avez, en 25 ans, une marque, une personnalité, une technologie qui vous vient à l'esprit comme étant le fait marquant des 25 ans?
La réponse facile, c'est quand même l'arrivée de l'iPhone, enfin les premiers smartphones. La keynote de Steve Jobs, c'est un moment révolutionnaire.
2007.
Je veux dire, ça a complètement transformé nos vies. Donc voilà, c'est la réponse probablement la plus facile. Désolé, je la vole.
Non, mais c'est la plus évidente aussi. C'est les tenants de la théorie de la stagnation séculaire considèrent que c'est la dernière innovation de rupture de l'histoire humaine récente.
Voilà. Ouais, on pourrait parler de l'intelligence artificielle pour le coup, parce que pour le
ChatGPT.
Bon, ChatGPT, Jean-Hervé, une personnalité.
La personnalité que j'admire le plus, c'est Bill Gates.
Oui.
Et j'admirais parce qu'il est à la fois un espèce de génie, vraisemblablement un peu compliqué dans sa tête, mais génie à la fois en technologie et puis cette capacité aujourd'hui de montrer une espèce de rupture totale et sur le rapport, son rapport à l'argent, la manière dont il l'utilise et sa capacité de traiter de sujets qui au départ n'avaient rien à voir, c'est-à-dire au fond prendre en charge des problèmes de santé en Afrique. Ce type est un génie absolu.
C'est d'ailleurs la plus ancienne, je crois, des sept magnifiques, puisque Apple a vu, Microsoft a dû voir le jour en 75.
Oui, c'est ça.
Alexandra.
Moi, j'aurais dit l'iPhone aussi.
Ah, l'iPhone.
Donc,
c'est plutôt la bonne pioche.
Je confirme que pour l'unanimité des Français, parce qu'on a interrogé 1000 Français qui représentent la population française, et pour la majorité des Français, c'est le smartphone qui effectivement a révolutionné les 25 dernières années et qui est devenu essentiel à leur vie. On a même effectivement avec l'iPhone le Wi-Fi et la connexion en fait, qui aujourd'hui est plus essentielle que, sur la pyramide de Maslow, que la nourriture la boisson. Ouais. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Donc pour eux, c'est vraiment
se passer de nourriture et de boire que de se passer de son téléphone 4G.
Temporairement quand même.
Temporairement. C'est-à-dire que je pense qu'ils n'ont pas conscience que c'est en fait vraiment essentiel puisqu'ils en fait ils le font par habitude. Mais aujourd'hui, quand on leur demande quelle est la chose la plus essentielle pour vous, c'est le téléphone. C'est le téléphone et la connexion Wi-Fi.
Je sais pas, il avait fait un effet bœuf un jour dans une université en disant, bon alors imaginez qu'on vous supprime l'eau courante ou qu'on vous supprime le smartphone. Et là, c'est vrai que les gens hésitaient quand même.
Et de moins en moins. Bon. Et puis alors, sur la personnalité, je suis désolée, les Français répondent, et en grande majorité, à 39%, Elon Musk.
Ouais.
Donc pour les Français, c'est Elon Musk qui marque la personnalité qui marque les 25 dernières années.
Je pense que ça se joue entre lui et Steve Jobs, hein, de toute façon.
Voilà. Et alors après, il y a Steve Jobs à 13%. Quand même, l'écart est malheureusement... Enfin, non, pardon, j'ai rien dit. Je n'ai pas dit malheureusement. L'écart est important. Et
c'est peut-être aussi parce qu'Elon Musk a été très présent dans le débat. Malgré tout, il y a un effet de salience un peu.
Bien
Steve Jobs, peut-être que certaines personnes n'ont pas forcément complètement...
À votre avis, c'est qui le Français?
Bon, moi, je l'ai vu, alors je ne réponds pas.
Vous aviez Niel?
Ouais.
Xavier Niel.
À 2%.
Bon.
Ah ouais.
Ça fait pas beaucoup.
C'est peu.
Faut parler des Français. J'ai entendu ce matin qu'on parlait de Fidji. C'est bien. Faut parler des Français
Personne
et des Françaises.
Peter Kurmensch?
Non. Je suis désolée.
Le fondateur, un peu jeune, fondateur de Mistral.
En revanche, quand on demande quelles sont, alors je parlerai de l'IA après pour Mistral, mais quand on demande quelles sont les marques qui ont marqué la technologie sur les 25 dernières années, bon, la première, c'est facile.
C'est Apple.
Voilà. La deuxième, c'est Samsung.
Ouais.
Mais la cinquième, donc après Google et Microsoft, c'est ChatGPT, déjà.
D'accord.
Mais on a posé sur les 25 dernières années, on n'a pas dit, mais ChatGPT monte quand même en cinquième position, déjà. Donc c'est là où on voit quand même qu'en l'espace de 2 ans et demi...
Il faut rappeler que c'est le produit technologique dont l'adoption est la plus rapide de l'histoire. C'est absolument dingue, c'est-à-dire plus rapide que TikTok, plus rapide que n'importe quel smartphone ou service internet. Donc ça se reflète bien dans les chiffres.
Oui, et d'ailleurs, quand on a après posé des questions plus spécifiquement sur l'IA, on voit d'abord que quand on demande aux Français, et à nouveau, on a interrogé les Français de 16 à 70 ans, donc il y a vraiment une palette et toutes les classes sociales. Quand on leur demande s'ils connaissent un outil d'IA, ils répondent oui à 85%, et à 74%, c'est ChatGPT, évidemment. Mais quand même, 85% des Français connaissent un outil d'IA, et quasiment un Français sur deux a utilisé un outil d'IA. Ce qui est énorme, quand même. En l'espace de 2 ans et demi, moi, je ne m'attendais pas à ces chiffres-là.
J'ai été étonné aussi sur la notoriété des autres marques d'IA.
Oui.
Alors, effectivement, il y a ChatGPT, c'est le grand gagnant. Mais même Gemini, je crois que c'est plus de 50% des Français. Ce qui m'a beaucoup étonné.
Plus de 50%
des Français connaissent Gemini.
Je reprends mes antisèches.
C'est énorme.
54% des Français connaissent Gemini, ce qui est énorme.
C'est énorme, oui.
Et Mistral, le chat, quand même, qui est à 13% des Français qui connaissent le chat. Ce qui est plutôt bien, parce qu'au moins, là, enfin, il y a un Français, donc c'est bien.
C'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve que on sait que l'Europe a eu un problème par rapport aux États-Unis dans les 20 dernières années de pas assez adopter en fait les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est en partie la cause de notre décrochage de productivité. Donc le fait de se dire que l'IA est quand même massivement connue et adoptée. Alors il faut savoir utiliser pour quoi faire, bien sûr, mais si on peut espérer que c'est utilisé entre autres pour travailler, etc., et obtenir des gains de productivité, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Oui, oui, alors effectivement, je vais vous répondre sur pourquoi faire. Il y a un autre fait intéressant, ils sont 14% à déclarer qu'ils ont déjà utilisé un agent d'IA. 14%.
Ils savent ce que c'est un agent d'IA ?
Alors, vous poser la question.
Nous n'avons pas détaillé, mais en même temps, quand on leur demande, ils l'utilisent. Pour quel usage ? Alors effectivement, le premier usage, c'est tout ce qui va être texte, effectivement production de contenu et effectivement tout ce qui est devoirs, études et pro. Ça, c'est les premiers usages. Mais derrière, il y a des usages très intéressants qui montent. Entre autres, en troisième, c'est les achats. Donc là, on peut se dire peut-être qu'ils ont un peu conscience de ce que c'est qu'un agent d'IA, peut-être. Ouais. Les voyages. Donc c'est pour ça que je me dis que finalement, quand ils répondent 14%, c'est bien.
Enfin,
c'est
les agents IA, ils sont même pas encore disponibles pour le grand public.
Opérateur n'est pas disponible.
Voilà. En gros, l'IA générative, c'est l'IA qui répond aux questions que je lui pose, ChatGPT, le chatbot, etc. Et l'agent IA ou l'IA agentique, c'est l'IA qui va plus loin. Elle va pas seulement répondre, elle va réaliser des tâches pour moi. Donc, elle peut par exemple réserver mes prochaines vacances en se débrouillant toute seule, en allant chercher, réserver sur le tour opérateur directement sur l'ordinateur, sans que je n'ai plus besoin de rien faire. C'est ça l'IA agentique. C'est la prochaine étape.
J'ai eu le témoignage tout récemment de quelqu'un qui a monté comme ça un week-end avec un agent IA.
Ben voilà.
Avec l'intégralité de la panel de services souhaité sur l'endroit où se déroulait l'événement.
Donc ils en ont conscience et ils commencent.
Et donc vous vous êtes intéressé aussi chez Kantar sur l'utilisation de l'IA, la perception de l'IA et tout ce que l'on peut retenir sur les quelques... Enfin voilà, je vous laisse me donner les principaux éléments à garder en tête.
Sur les usages, ce qui est intéressant, c'est que donc, au-delà des usages classiques dont je viens de parler, quand on regarde par âge, ils sont un tout petit peu différents.
Et alors,
ce qui est normal.
Alors, je comprends pourquoi je suis en queue de peloton.
Alors, les 16-24 ans, c'est assez étonnant. Après l'usage pour leurs devoirs et leurs études, il y a les recettes. Ouais. Les recettes. Mm-hmm. Je ne m'attendais pas à ce que ça monte autant. Et juste après, il y a le développement personnel. On l'a vu aussi aux États-Unis. L'IA est de plus en plus utilisée par les jeunes pour un accompagnement psychologique. Et ça ressort aussi en France. Franchement, j'étais étonnée de voir ça. C'est pareil pour les 25-34 ans. Le développement personnel et le sport sont les deux usages après les études et la vie professionnelle.
Ça, il y a un vrai sujet, y compris de dépendance émotionnelle qui va arriver autour de l'intelligence artificielle. On le voit dans la façon dont les plus gros utilisateurs de ChatGPT utilisent par exemple des marqueurs affectifs, par exemple, dans la façon dont ils s'expriment à l'IA. C'est-à-dire qu'ils le considèrent non plus seulement comme un outil, mais quasiment comme un confident ou comme un ami.
Et ce qui change aussi avec tous ces usages, c'est qu'on est en train de voir que le moteur de recherche traditionnel commence à perdre un peu de poids. On a entendu récemment, vous savez qu'aujourd'hui, par défaut, quand on a un iPhone, le moteur de recherche, c'est Google. Voilà, c'est un accord qui a été signé. D'ailleurs, il y en a qui versent beaucoup d'argent à l'autre pour l'utiliser. Et là, l'un des patrons d'Apple a dit récemment, vous savez, on s'est rendu compte que 20% des recherches sur le moteur de recherche traditionnel sur l'iPhone avaient disparu. C'était parti ailleurs. C'est parti où ? C'est parti chez ChatGPT. C'est parti chez Perplexity. Et lorsque vous regardez autour de vous, de plus en plus de gens, et pas uniquement les techs, quand ils ont quelque chose à demander, ils vont directement faire un prompt sur un des moteurs, des Perplexity, le chat, ChatGPT, plutôt qu'aller vers les moteurs de recherche. Ce qui interroge beaucoup de choses, parce que l'usage, la première chose, c'est le modèle économique. Alors, ça touche Google, mais derrière, ça touche Google, ça touche tous ceux qui font la publicité. Est-ce qu'ils vont réussir à trouver la même manne financière auprès d'un ChatGPT ? Et puis, il y a autre chose dont on parlera aussi certainement, c'est l'impact environnemental, parce qu'il ne faut pas oublier que faire des requêtes ChatGPT, on consomme de l'eau, on consomme d'électricité beaucoup plus que quand on fait une requête Google traditionnelle.
33% des Français sont d'accord avec vous sur l'impact environnemental.
C'est beaucoup plus consommateur d'énergie d'aller sur de l'intelligence artificielle générative que d'aller sur Google. On a 4 minutes 20 avant de marquer la pause dans cette émission. Qu'est-ce que je retiens encore sur les éléments de l'enquête Kantar sur les 25 ans d'innovation dans nos vies, Cécile Lejeune ?
Le dernier point qui est assez intéressant, c'est qu'on a demandé aux parents s'ils acceptaient que leurs enfants utilisent l'intelligence artificielle. Et là, les chiffres sont assez surprenants. Donc, pour des enfants de moins de 11 ans, les parents déclarent à 47% qu'ils autorisent leurs enfants à utiliser l'intelligence artificielle.
En sachant pertinemment à quoi ça peut servir et à quoi ça peut conduire.
Oui. Alors que pour des enfants qui sont au lycée, on arrive à 65%. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que les parents même encouragent leurs enfants à utiliser l'intelligence artificielle. À 46% pour des enfants qui sont au lycée, par exemple. Donc, on est vraiment sur, d'abord, des parents qui pensent que c'est bien que leurs enfants utilisent l'intelligence artificielle, qui les encouragent à le faire, ce qui est un sujet pour l'éducation, parce que je ne suis pas sûre que tous les professeurs soient d'accord avec ça.
À tout dépend comment on l'utilise.
Oui. Voilà.
Qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'aurais été ravi, quand j'avais 10, 15 ans, d'avoir une intelligence artificielle qui permettait de répondre aux problèmes.
Oui, mais on peut aussi s'en servir. Par exemple, là, il y a le bac qui approche, c'est fais-moi des fiches de révision pour le bac. Oui. C'est, on lui donne tous nos cours et il va nous en faire une synthèse absolument précise. C'est fais-moi un petit quiz sur la Seconde Guerre mondiale, les dates, et puis il va... À voix haute, hein, je veux dire, je vais avoir comme un prof qui discute avec moi et qui me fait une interro à la minute, en fait, et qui va pouvoir s'adapter, y compris à mon niveau de compréhension, pour me poser des questions un petit peu plus faciles ou un petit peu plus difficiles. C'est aussi cet usage-là, s'il est bien encadré, ça peut être un outil de révision.
Cher Anthony, quand même.
J'étais très discret depuis le début de l'émission.
Oui, parce que les résultats sont très passionnants. Mais l'utilisation même de ce terme d'intelligence artificielle, mais d'intelligence, donne le sentiment en réalité que on est confronté à quelque chose qui apporte une espèce de surplus intellectuel.
L'intelligence augmentée.
On parle sous le contrôle d'Alexandra, qui est une vraie économiste de fond. Je veux dire, l'intelligence est évidemment un tout peu plus riche que celui d'une présentation de fiches de formation.
Donc, bien sûr.
On va faire très attention à ça. On voit ce que j'ai d'une banalité absolue. Ça n'est pas de l'intelligence au sens strict. C'est de la compilation très, très astucieuse, très formatée, très talentueuse, et c'est formidable. Mais faisons attention, juste qu'une société intelligente, c'est une société qui réfléchit, et on ne réfléchit pas avec une machine.
Pour la partie éducation, je pense qu'il faut quand même revoir tout ça. Il y a quelques mois, Elisabeth Borne a dit, voilà, on va donner aux élèves de 4e, de 2e, un apprentissage, enfin des cours d'apprentissage à l'IA. Mais je pense que là, on fait fausse route. Pour moi, c'est chaque prof en histoire, ben voilà, comme le disait Anthony, le prof d'histoire, ben il doit faire son cours d'histoire, mais il doit travailler avec aussi ses élèves autour IA histoire, enfin comment on va l'utiliser l'IA pour faire des fiches, pour se poser des questions, pareil en maths et tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment tout le cursus. C'est pas uniquement donner quelques heures, 6 heures de cours par semaine pour dire voilà ce qu'est l'IA, et puis retourner en cours de maths, en cours de français, d'histoire géo, tout ça. C'est vraiment chaque prof qui doit. Et là, il y a une profonde révolution, parce que on pourra en pas empêcher quand j'entends les enfants de 11 ans. Moi, j'en ai un de 14 ans chez moi, c'est sans réflexe. Il ne se pose même plus la question.
L'histoire, c'est que les chiffres que donne Cécile Lejeune, je pense que c'est évidemment la solution de facilité qui est la plus tentante, beaucoup plus que la solution de
Le problème, c'est quand même le rapport à l'effort. C'est-à-dire que oui, c'est très bien pour faire une fiche plus rapidement, mais une partie de faire la fiche, c'est pas seulement apprendre, c'est apprendre l'effort, quoi. Que, en fait, quand même, une partie de nos études, on a appris ce que c'est que l'effort, et qu'il y a un lien entre l'effort et la réussite. Donc, on perd un tout petit peu ça. C'est ça, je pense qu'il faut absolument s'appuyer sur l'intelligence artificielle, y compris dans l'éducation. Mais il faut faire attention au sentiment de facilité que ça peut donner.
Il y a une question que je vais poser à Christine.
Et elle donnera la réponse juste après.
Elle donnera juste après. Est-ce qu'il y a, il y a eu cette segmentation par l'âge? Moi, j'aimerais qu'il y ait une segmentation par le niveau social. Savoir comment les niveaux sociaux... Moi, ce qui me frappe dans nos sociétés, c'est évidemment segmentation absolue, dans tous les domaines. Est-ce que ça renforce ou est-ce que ça amoindrit cette segmentation qui explique beaucoup de phénomènes de violence de nos sociétés?
On marque une pause. Dans un instant, on répondra à cette question avec Cécile Lejeune, et puis on va décliner les quelques-uns des thèmes que j'ai évoqués. Intuitivement, je me dis, oui, mon chéri, va utiliser l'intelligence artificielle tant que tu veux. Intuitivement, je trouve ça plutôt inquiétant. Mais j'ai bien dit. On se retrouve d'ici quelques instants, à tout de suite, pour cette émission spéciale 25 ans de l'émission De quoi je me mêle.
Débat et controverse sur BFM Business.
Émission spéciale, les experts de la tech. Nicolas Dose, Anthony Morel.
Avec aujourd'hui Alexandra Roulet, professeure à l'INSEAD, membre du cercle, des économistes, oui, du conseil d'analyse économique. Cécile Lejeune, présidente de Kantar Insight France, à l'occasion de cette spéciale tech et de ce baromètre exclusif pour BFM Business. Les 25 ans de technologie vus par les Français, Jean-Révé Lorenzi, le président de l'association pour les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, qui a coécrit un monde de violence et après 14 propositions pour éviter une crise mondiale chez Erol. Frédéric Simotel, spécialiste de la tech sur BFM Business, et pour m'accompagner, pour animer cette émission, Anthony Morel, également spécialiste de la tech sur BFM Business. Est-ce nécessaire de le rappeler? Avant d'évoquer notamment l'IA et l'emploi et désillusion ou révolution pour les entreprises, est-ce qu'au terme de l'enquête, Cécile Lejeune, on peut voir des distinctions en fonction des milieux sociaux? Les âges, oui, ça on a compris. Plus on est jeune, plus on est geek.
Sur la connaissance de l'IA et l'usage d'un outil IA, non. Je n'ai pas de différence entre les CSP- et les CSP+. Par contre, sur la façon dont ils vont l'utiliser, les CSP+, vont être plus sur du professionnel. Et les CSP- vont être plus sur un usage quotidien de recettes, d'informations, de création de textes et de contenus. Donc aujourd'hui, on ne voit pas encore de clivage. C'est le début, à nouveau. En tout cas, ça les intéresse. Ça intéresse toute la population, même les CSP-, et ils commencent à l'utiliser.
Peut-être juste une remarque. Il ne vous échappe pas que tout le monde a un smartphone.
Oui.
L'usage n'est pas le même. Il y a eu un papier dans les Échos, que je cite, d'Alexandra, il y a deux jours, qui expliquait, qui parlait du rapport au travail. Et évidemment, pourquoi est-ce que les gens ont envie de partir tout en retraite? Pourquoi? Tout simplement parce que tous les non-qualifiés, c'est-à-dire maintenant une très grosse partie de la population, a le sentiment d'être exclu du travail, d'une manière ou d'une autre, par la rémunération, par la considération, par la perspective. Et ce qui est très intéressant, c'est de savoir, pour les économistes, mais aussi pour nous tous, savoir comment, en quoi, est-ce que l'intelligence artificielle permettrait, avec un conditionnel, d'essayer de redonner une espèce de version positive du rapport, en fait, à la société et à l'emploi? Est-ce que, alors je vais vous poser une autre question, puis j'arrête après, plus de questions, parce qu'on a toutes les réponses, mais est-ce que les gens ont le sentiment que ça les rapproche de la société, ou est-ce que c'est très individualiste?
Alors, compliqué, c'est... hein. Bon, ouais. Alors, je sais pas si Cécile Lejeune a un avis là-dessus.
On n'a pas posé la question directement, qui est une très bonne question qu'on pourra poser la prochaine fois. Donc, je ne peux pas vous répondre.
Question presque philosophique.
Oui, non, mais voilà. Oui. Je pense que l'usage est très individuel quand même encore aujourd'hui. Et puis, je suis pas sûr que malheureusement l'intelligence artificielle ait toutes les vertus, quitte à rendre les perspectives professionnelles des non qualifiés brillantes et ouvertes et prometteuses, passé l'âge de 50 ou 55 ans. Dans les sujets qu'on avait retenus, alors c'est une idée d'Anthony, c'est toutes ces entreprises qui, un petit peu par précipitation parfois, ou par mimétisme, ont décidé d'adopter l'intelligence artificielle. Comment elles le vivent avec le recul?
Ouais, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, il y a des études qui montrent que 80% des projets d'IA qui sont mis en place dans les entreprises échouent. Et c'est un chiffre qui est absolument énorme. C'est-à-dire qu'il y a plein de, ce qu'on appelle des proof of concept. On teste des choses, on commence à mettre un peu de chat GPT, on dit, vous allez voir, ça va augmenter votre productivité. Souvent, ça vient de la direction. La direction voit que tout le monde parle d'IA, donc il dit, bon, les gars, faites-nous de l'IA. Il dit ça à leur direction de l'innovation. Et puis, en fait, à la fin, ça fonctionne pas. Et on se demande pourquoi ça fonctionne pas. Alors, il y a plusieurs éléments. Peut-être que vous avez des réponses. Moi, je pense que les boîtes savent pas forcément comment s'y prendre. Souvent, elles y vont trop vite. Elles essayent de foncer et puis au final elles reviennent en arrière. Je pense par exemple à l'exemple de Klarna dont on avait parlé, spécialiste du paiement fractionné, où en gros ils ont viré tout leur service client, une grande partie de leur service client,
ils ont fait machine arrière.
Ils ont dit finalement en fait l'humain c'est bien parce que les clients sont pas forcément satisfaits quand ils discutent avec une IA, elle a pas toutes les réponses, elle a pas d'empathie avec l'humain. Donc voilà, c'est un bon exemple. Je pense qu'il y en a plein d'autres et on voit bien que l'IA dans les entreprises c'est pas si facile que ça, c'est pas aussi simple que de dire bon les gars maintenant utilisez tous ChatGPT et vous allez tous gagner en productivité.
Oui. L'histoire, c'est que c'est révolutionnaire et ça donnait l'impression d'une révolution automatique, presque d'une impression de baguette magique qui n'est pas forcément avérée partout. Frédéric Simotel et puis Cécile Lejeune pourra me donner son avis parce que je crois que chez Kantar, vous avez un peu expérimenté l'IA.
En fait, moi, pour être au contact régulièrement avec des patrons du digital, des chefs AI officers, effectivement, il y a ce côté un peu désillusion avec le côté un peu magique quand c'est arrivé.
C'est
donc, on a lancé plein de proof of concept, le passage à l'échelle était plus compliqué. Ensuite, aujourd'hui, il faut bien voir ce qu'on veut faire. Soit, moi, je vois trois axes. Le premier, c'est la bureautique. Voilà, on va va améliorer, on va résumer des réunions, on va répondre à des mails, tout ça. Ce qu'on fait au quotidien, bon, on va le faire un peu plus vite, un peu automatisé. Ça marche bien, mais par contre, il faut de l'adoption continue, parce que souvent, on voit l'outil les deux premiers jours après sa formation, puis après, on reprend un peu ses habitudes. Là, il faut un petit peu se forcer pour aller vers ça. Le deuxième axe, c'est les métiers. Je prends notre métier de journaliste. Bien nous, est-ce que il y a des choses à faire avec cette IA autre que ce dont je viens de citer, la bureautique, donc dans la recherche. On parlait de vidéos, faire des vidéos, faire du doublage, faire de la traduction, des choses un peu nouvelles. Et puis la troisième chose, et ça dans tout un tas de métiers, la relation client, enfin il y a beaucoup de choses. Et le troisième métier, c'est est-ce qu'il y a des nouveaux services à inventer? Est-ce qu'il y a des choses que on sait pas vraiment faire aujourd'hui et que l'IA va nous aider, alors peut-être via les agents? Et c'est vraiment ces trois questions qu'il faut se poser. Après voilà, je suis d'accord avec ce que tu dis. Enfin ces chiffres-là, on le voit aujourd'hui en entreprise. Il faut aussi avoir les compétences. Parce que là aussi, c'est des choses à développer, c'est de l'organisation, il faut trouver ça. Donc voilà, il y a plusieurs, pas des freins, mais des obstacles, et il faut bien en être conscient quand on se lance des projets.
Alexandra Roulet.
Oui, je pense que l'IA en entreprise, ce que ça permet vraiment, c'est d'effectuer des gains de productivité. Donc parfois, on entend des discours un peu alarmistes sur l'IA, c'est la fin du travail. Donc bon, c'est des discours qu'on entend à chaque fois qu'on a un progrès technologique majeur. Donc,
toutes les innovations.
Première révolution industrielle, les ouvriers britanniques cassaient les machines à tisser.
Canut le lion.
Voilà.
Oui.
Keynes en 1930, avec la diffusion de l'électricité, etc., disait on va avoir du chômage technologique. Voilà, ça va être, il y aura plus autant de travail. Bon, à chaque fois on a cette crainte. Bon, il vous aura pas échappé qu'en fait il y a des emplois qui se détruisent et d'autres qui se créent. Donc exactement ce que vous dites. Des services qu'on ne peut même pas encore nécessairement imaginer. C'est le processus naturel. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, il y a des, enfin, la technologie, elle est inventée pour remplacer des tâches humaines. Donc oui, elle va remplacer des tâches humaines, bien sûr. Mais elle induit des gains de productivité. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous permet de faire les choses plus vite. Et généralement, les entreprises, quand elles ont des gains de productivité, elles se contentent pas de produire la même chose en utilisant moins de ressources, elles produisent plus. Donc les entreprises qui vont le mieux adopter l'IA, elles vont être plus compétitives, elles vont gagner des parts de marché, elles vont croître. C'est ce qu'on voit très très nettement dans les données, c'est-à-dire que dans les données, on voit par exemple pour l'adoption des robots, mais on voit les mêmes résultats pour l'adoption de l'IA, donc les données plus récentes, qu'en fait, pour une entreprise, généralement, par rapport à des entreprises similaires, celles qui adoptent mieux les technologies ou davantage les technologies, elles croissent en emploi. Elles croissent en emploi, oui. C'est-à-dire que, pourquoi ? Parce qu'elles croissent en chiffre d'affaires, elles croissent tout court. Et donc, même si certains métiers dans l'entreprise, oui, ont été automatisés ou remplacés par de l'IA, etc., le fait que l'entreprise soit en croissance, ça génère évidemment de l'emploi. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir quand même un discours relativement positif sur l'effet de l'IA, de cette nouvelle technologie, sur l'emploi. Et sur ce que vous disiez, la grande désillusion, je pense qu'il y a aussi le côté, tout ça est en train de se construire. Donc, les usages sont encore peut-être imparfaits, les clients ne sont pas satisfaits. Oui, il faut essayer d'avoir de la complémentarité, il ne faut pas remplacer l'homme, mais ça va aussi s'améliorer.
Oui, puis il peut y avoir une forme de réticence des collaborateurs aussi. Hein. Faut pas le. Enfin, je veux dire, on le voit bien dans les entreprises, y compris ici, quand il y a un nouveau logiciel de note de frais, tout le monde est en panique déjà. Donc, si vous voulez, quand on arrive avec des outils d'intelligence artificielle et on vous dit, vous allez utiliser ça et vous allez voir, ça va booster votre productivité, faut pas sous-estimer le fait qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui sont un peu. Qui rechignent, en fait, hein, ouais. Tout simplement.
J'ai quand même une question sur les gains de productivité.
Je suis évidemment tout à fait d'accord avec Alexandra sur globalement ce qui va se passer, que c'est positif.
Ça, ce serait. Ce que dit Alexandra, c'est l'histoire se répète toujours et vous verrez.
Oui,
les craintes d'hier ont été démenties.
Le canut lion qui n'était pas content.
Oui,
il y a quand même la période de transition.
Voilà.
Et les êtres humains sont. Nous sommes tous pareils. C'est très gentil, le bien de l'humanité. Mais si on n'a plus de quoi. On n'a plus de quoi se nourrir ou travailler. Donc, c'est toujours un tout petit peu plus compliqué. Mais ce qui me frappe, c'est de voir où les emplois vont être supprimés et où ils vont être créés. Les emplois, je suis mille fois d'accord avec Alexandra sur l'idée, tout ce qui est cadre, etc. Ça va être... Classe moyenne, c'est quand même évidemment là où ça va toucher le plus, de manière la plus forte. C'est, au fond, tout ce qui est bureaucratie simple, ça va disparaître. Et les non qualifiés, le voiturier, l'IA, ça va pas changer la face du monde. Donc,
sauf les voitures
là aussi, il faut être très lucide sur la manière dont, dans les politiques sociales qu'il faut qui doivent accompagner, c'est être très lucide sur le fait que ça se fait pas du tout, et là-dessus, mille fois d'accord avec Alexandra, sur peut-être la quantité de travail, la croissance, vous avez parlé de productivité, mais il y a des catégories de gagnants, il y a des catégories de perdants, et les perdants, c'est perdants. Je rappelle quand même que je suis frappé de voir que, en gros, 50% de toutes nos populations, en tout cas chez, dans tous les pays de l'OCDE, se retrouvent plus ou moins avec 50% de populistes. Donc on a un petit problème là, qui est un problème politique, de perception de l'évolution du progrès de nos sociétés.
C'est très important ce que vient de dire Jean-Hervé, parce qu'en effet, moi, je parle d'effet moyen, et c'est vrai qu'il y a des gagnants et des perdants, et qu'en fait, bon, ça paraît un peu rapide de dire ça comme ça, mais c'est quand même quelque chose qu'on a échoué à faire dans les précédentes révolutions, c'est de bien prendre en charge les perdants. Et l'IA a une spécificité, c'est que ça va plus vite. Et donc prendre en charge les
frappe par rapport aux précédentes
révolutions. Oui, et du coup, prendre en charge les perdants, c'est vrai, parce que qu'est-ce que ça veut dire prendre en charge les perdants? Ça veut dire idéalement les reformer pour qu'ils puissent aller sur d'autres métiers. Et c'est vrai que plus les changements vont vite, plus c'est difficile. Donc je suis d'accord que ça... Quand je dis je suis optimiste sur le fait que je ne pense pas du tout que l'IA, c'est la fin du travail. Et globalement, voilà, il va toujours y avoir de l'emploi. Mais sur le fait que ça nécessite des politiques publiques adéquates d'accompagnement, notamment des gens qui sont impactés, et que le défi est peut-être encore plus grand que dans les années passées, alors qu'on n'a déjà pas très bien réussi à le faire dans les années passées, ça, je suis tout à fait d'accord, et c'est un point très important.
Et je pense qu'il y a un rôle aussi beaucoup des patrons d'entreprise. Parce que moi, on gagne en productivité. Chez Kantar, on utilise beaucoup l'IA, exactement de la façon dont vous l'avez décrit, c'est-à-dire que tout le monde a accès à Copilot, et quand je dis tout le monde, c'est même la personne de l'accueil, hein, parce qu'on estime que c'est notre devoir que tout le monde puisse l'utiliser. Donc sur la bureaucratie, on a ça, mais on a aussi des solutions d'IA qu'on propose à nos clients, et on est en train d'intégrer l'IA sur la façon dont on fait les études, donc dans le schéma de travail sur les études. Mais ce que je vois, et je pense que c'est la responsabilité aussi des patrons, c'est que d'abord, franchement, les outils d'IA sont très simples à utiliser, beaucoup plus simples que les nouveaux logiciels de compta. En fait, non mais... Réellement, enfin, vous utilisez.
Ça dépend lesquels quand même. Parce que ChatGPT, c'est hyper facile parce que lui, l'expérience utilisateur a été mise en place.
Oui, Copilot aussi. Copilot, c'est, en français, Copilot. Copilot est hyper donc, simple à utiliser.
L'outil c'est proposé aussi par Microsoft pour.
Et c'est ChatGPT derrière.
Donc, Word, Excel.
C'est OpenAI. Donc, franchement, c'est très très simple. C'est même plus simple à utiliser qu'un tableau Excel où il faut se souvenir des formules. Donc, un, c'est très simple. Et deux, ce que j'ai découvert, c'est oui, on gagne en productivité, mais je pense que surtout, enfin en tout cas chez Kantar, on focalise sur le fait qu'il faut, grâce à l'IA, gagner en qualité de service. Et alors oui, on a un métier de service, hein, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui gagnent du temps vont passer plus de temps avec les clients, plus de temps à servir nos clients, et donc aussi à réfléchir. Donc effectivement, après, il faut que tout le monde ait cette capacité. Mais je le vois à tous les niveaux, et je pense, oui, que ça va créer une fracture. Maintenant, il y a le rôle des patrons d'entreprise est clé, en fait, sur ces sujets-là. Sur, effectivement, comment on aide chacun, d'abord, à avoir accès à l'outil, mais aussi, effectivement, à augmenter la qualité et pas juste réduire la production. Enfin, gagnant en productivité.
Je suis toujours très... Ça fait un peu la belle histoire, vous voyez, Cécile Lejeune, de dire, mais c'est la technologie qui va vous libérer des tâches rébarbatives et vous laisser plus de temps pour les tâches à forte valeur ajoutée.
Mais c'est vrai.
Je suis assez quand même sensible à l'argument de Jean-Hervé Lorenzi. Ça va très vite. Il y a une phase de transition. Les perdants, ils peuvent être perdants rapidement. Parlez-en aux gens qui font de la traduction. Parlez-en aux gens qui font du doublage au cinéma.
Parlons-en aux avocats. Parlons-en à ceux qui sont dans les sociétés de conseil. Les jeunes qui arrivent. Comment un jeune avocat qui arrive aujourd'hui dans un cabinet, est-ce qu'il va plus apprendre comme avant? Et justement, est-ce que...
Le fait que l'IA puisse aller très très vite en matière de synthèse de jurisprudence, génial. Mais
le problème, Nicolas, c'est qu'en réalité, personne n'en sait rien. C'est-à-dire que le truc, c'est que
en tout cas, chez Kantar, ça fonctionne.
Quand on écoute les experts, c'est-à-dire les gens qui sont vraiment, qui ont les mains dans le cambouis, et des gens vraiment de très haut niveau, ils vous disent des choses très différentes. Il y a quelques jours, il y a le patron d'Anthropic, lui, il s'y connaît, hein, Dario Amodei, donc l'une des plus grandes entreprises d'IA au monde, qui dit d'ici 5 ans, c'est 10 à 20% de chômage en plus. Voilà. C'est Elon Musk, il dit non mais il va falloir qu'on repense le sens de notre vie en tant qu'humain, parce que de façon, dans quelques années, l'IA et la robotique, ils pourront faire absolument tout ce qu'un humain est capable de faire. On n'aura plus besoin de travailler. Et puis, à côté de ça, vous avez Andrew Ng, qui est un autre grand penseur, un autre grand théoricien de l'intelligence artificielle, qui dit non, pas du tout. On ne va pas aller vers un salarié remplacé, on va aller vers un salarié augmenté. Voilà. Et c'est celui...
Je l'appelle la belle histoire.
Voilà, c'est celui qui utilise l'IA qui va remplacer celui qui ne l'utilise pas. Mais vous voyez, c'est des trucs complètement
C'est pas exogène, c'est endogène. C'est-à-dire que ça dépend aussi de ce que... C'est pas un scénario plutôt que l'autre va nous tomber dessus. Ça dépend aussi de tout ce qu'on fait. C'est-à-dire collectivement, je veux dire. On peut un tout petit peu influencer le scénario qui va se réaliser.
Juste deux exemples.
Jean-Hervé Lorenzi.
Je reviens un instant sur le voiturier.
Qu'est-ce que vous avez avec les voituriers,
on est dans une société très inégalitaire où les gens... bien qu'ils vont au restaurant, ils adorent avoir un voiturier. Donc il y a beaucoup de voituriers. C'est comme ça.
Bah, ils sont remplacés.
C'est l'exemple même. C'est l'exemple quand même du travail non qualifié qui, je veux dire, il n'aura pas le sentiment qu'il est complètement exclu de sa société.
Mais Jean-Hervé, il va être exclu que la voiture va aller se garer toute seule.
Ah bah si, ah bah si,
aujourd'hui
ça, dans 10 ans on y est.
Aux États-Unis,
à San Francisco, ça me rappelle
une mauvaise plaisanterie que j'avais fait.
Vous avez pris un taxi sans conducteur à San Francisco.
Bien sûr.
Jamais pris encore de taxi, pas souvent, mais
il n'y a plus que ça, tu en vois plus que de
taxi. Ça me rappelle toujours une mauvaise plaisanterie que j'avais fait dans un voyage où j'étais à côté d'un notaire, un grand chef notaire. Et vous savez que la blockchain, ça remplace le tiers de confiance. Et je lui avais dit en plaisantant que j'étais le président de l'association de promotion de la blockchain. Le type ne voulait plus me parler après. Il y a quand même, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Il y a une transition très rapide. Il y a quand même, en fait, dans une société qui est très segmentée, vraisemblablement des effets d'accélération de cette... Alors, j'ai tombé le voiturier, j'ai tombé tout ce qui est automatique, auquel vous croyez, moi, pas du tout. Mais, tout ça...
Il y a d'autres métiers, c'est-à-dire, par contre, il y a ce qu'on appelle, alors les chercheurs appellent ça le paradoxe de Moravec, c'est-à-dire le fait que, en fait, avec l'intelligence artificielle et la robotique, ce sont les métiers les plus qualifiés qui vont être remplacés les plus rapidement et que ceux qui sont les plus manuels et les plus, entre guillemets, simples, les choses les plus simples sont les plus difficiles à faire pour
boulanger,
un robot. Boulanger, réparer une fenêtre, voilà ça, l'IA ou un robot n'est pas capable de le faire, alors que, dans, par exemple, chez Facebook, Mark Zuckerberg a dit que d'ici un an, 50% du code de l'entreprise serait écrit par de l'intelligence artificielle. Vous voyez, donc c'est des boulots hyper qualifiés vont être remplacés relativement rapidement.
Mais qui décide le développement de l'IA si ce n'est pas les hyper qualifiés? J'ai rarement vu les gens scier la branche sur laquelle ils sont assis. Je veux dire, je ne crois pas du tout non plus à ça. C'est des formules. Donc c'est évidemment une version positive de Christine. C'était la belle histoire et enfin les gens vont pouvoir réfléchir. Et je me mets dans ce qu'on disait tout à l'heure sur les étudiants vont pouvoir non seulement faire leur copie directement, mais pouvoir enfin réfléchir et à la manière dont les cours leur sont donnés.
Oui, ou ne plus réfléchir du tout.
Mais aujourd'hui, on a des outils qui vont voir quelle part d'IA est dans un devoir rendu par l'élève.
Oui, oui.
On a quand même ce genre
de professeur est capable de savoir à quel pourcentage l'IA a été utilisée sur un devoir.
Oui. Et juste un petit mot, je ouvre une parenthèse, mais qui est à mon avis importante aussi sur l'IA, dans ce que tu viens de dire, la conception de l'IA. Et si on revient sur les 25 ans de tech, on a un gros échec dans la tech aujourd'hui, et si on parle un peu emploi, c'est les femmes. On a très peu de femmes dans la tech. Je pense que c'est collectif, hein. C'est les écoles, c'est les entreprises et tout ça. Et aujourd'hui, attention, parce que l'IA est principalement développée par qui ? Par des hommes.
Fait que l'IA soit développée par des hommes, ça peut
provoquer des biais. Et là, il y a vraiment un travail à faire de ce côté-là.
Ça nous ramène sur la présence des femmes dans les filières scientifiques.
Ouais. Voilà.
Qui a été un sujet d'Elisabeth Borne.
Et qui est un vrai échec, si tu vois, comme on fait les 25 ans de la tech, et pour moi, est un vrai échec. On est à 11%, enfin, je sais pas.
Qui est même un sujet croissant, c'est pas juste un sujet égalitaire.
Mettez bien le micro devant vous, là.
C'est pas la présence des femmes dans la tech ou de façon générale dans les matières scientifiques, c'est pas juste un sujet égalité homme-femme, c'est un sujet croissance. Parce que si on considère que le talent est également distribué dans toutes les classes sociales, chez les hommes et chez les femmes, le fait qu'on utilise les innovations que faites par un groupe restreint, ça veut dire qu'on se prive de tout un tas d'innovations. C'est les travaux de Xavier Jaravel, Marie Curie habite dans le Morbihan, et de dire il y a des talents dont on ne se prive pas et la place est prise par peut-être d'autres gens qui en fait sont un peu moins talentueux. Normalement, il y a un enjeu croissance derrière le fait de faire accéder les femmes notamment, mais aussi les milieux sociaux plus défavorisés aux professions scientifiques.
Vous l'évoquiez tout à l'heure, Alexandra Roulet, la question des gains de productivité. On a vécu une période de déclin de gains de productivité depuis 2019, un sujet sur lequel les économistes s'arrachent un peu les cheveux, ne parvenant pas à tout parfaitement comprendre, cibler et encadrer pour pouvoir donner une analyse parfaitement juste. Est-ce qu'on peut vraiment aujourd'hui commencer à avoir des gains de productivité liés à l'intelligence artificielle? Visiblement chez Kantar, oui. Comment vous commencez?
On commence.
Donc là, on peut espérer qu'il n'y aura pas de paradoxe de solo avec l'intelligence artificielle qui va s'installer dans les entreprises et que vraiment les gains de productivité seront sonnants, trébuchants, rapides, visibles et réellement quantifiables.
Il y a un débat entre...
Comme le disait Anthony, il y a un débat sur l'impact.
Il y a un débat entre académiques.
Ça va être génial. Et ceux qui vous disent que ça va être dramatique, et je sais que j'ai vu des chiffres hallucinants d'un côté comme de l'autre. Et les gains de productivité, sacré sujet.
Daron Acemoglu, prix Nobel de l'année dernière, a une vision très pessimiste. Donc, il va vous dire les gains de productivité. Donc, pour vous donner une idée, les précédentes révolutions technologiques, les gains de productivité, c'est à peu près un point de pourcentage en plus par an sur 10 ans. Donc, si par exemple, vous croissez à un rythme de 2%, avec une révolution technologique, vous allez croître à 3% pendant 10 ans. Et après, vous revenez sur le taux de croissance d'avant, mais vous êtes de façon permanente plus haut parce que vous avez eu cette croissance supérieure. L'électricité, l'éthique, tout ça, c'est un peu le même ordre de grandeur. Quelqu'un comme Daron Acemoglu va vous dire l'IA, c'est 10 fois moins. C'est 10 fois moins. C'est 0,07. C'est même un peu moins que 10 fois moins. Et quelqu'un comme Philippe Aguillon, de l'autre côté du débat, va vous dire non, ça va être pareil que les autres révolutions technologiques. Et comment ils arrivent à des estimations différentes? En fait, tous ces calculs reposent un peu sur des hypothèses. Quelles hypothèses? Eh ben, quelle est la part des tâches qui sont vraiment exposées à l'IA? Parmi ces tâches, quelle est la part qui va être vraiment remplacée? Quelle économie on va faire en faisant ce remplacement? Donc, à chaque fois, on fait des hypothèses. Et donc, il y a toujours des intervalles. On n'est pas trop sûr de ces chiffres. Par exemple, sur la part des tâches exposées à l'IA, Daron Acemoglu, il dit c'est que 20%. Le FMI dit c'est 60%. Vous vous rendez compte que l'ordre de grandeur est différent. Donc, selon que vous utilisez 20 ou 60 dans votre calcul, et ça, pour chaque étape du calcul, vous aboutissez à des ordres de grandeur de l'ordre de 1 à 10. Et donc il y a un débat, et moi je suis plutôt du côté positif, c'est-à-dire que je pense que l'IA va générer des gains de productivité probablement de l'ordre des précédentes révolutions technologiques, mais je ne suis pas une spécialiste de l'IA, donc c'est ma position sur un débat qui est ouvert sur le sujet.
Allons-y.
Juste pour, comme ça le débat est lancé, moi je suis plutôt je crois que personne n'a la queue d'une idée de ce qui va se passer, donc les économistes doivent être très malaises sur ce sujet-là. Je pense que les phénomènes de nos sociétés sont... L'IA, c'est un point très important, mais ça rentre dans une société qui, d'abord et avant tout, est déterminée par sa structure démographique, qui est majeure. Ces sociétés qui vieillissent sont des sociétés qui sont moins productives ou qui ont des gains de productivité moins forts. C'est beaucoup plus important, à moins que... Mais ça, on n'a pas regardé les vieux qui m'intéressent. On n'a pas regardé comment est-ce qu'ils peuvent... au fond, les seniors, prolonger plus longuement et dans la prolongation de leur vie professionnelle, au fond, rester aussi productif. On a déjà un débat sur la productivité des seniors. Donc, c'est un sujet qui est difficile. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres critères. Et je trouve que d'un côté, Acemoglu, de l'autre côté, Aguillon, sont très légitimes à évoquer ces sujets. Mais très franchement, personne n'en sait rien.
Anthony, oui.
Ouais, deux points rapides. Je pense que il y a aussi des disparités en fonction des secteurs et des branches d'activité.
Bien c'est sûr, hyper clairement.
Si vous prenez une agence de pub, aujourd'hui avec l'IA, il lui faut 2 heures pour faire une campagne de pub là où il lui fallait 3 semaines. Donc là, je veux dire, le constat, il est évident. Et sur le vieillissement de la population, alors il y a un élément intéressant aussi parce qu'il y a certains pays qui utilisent alors l'intelligence artificielle et plus généralement la robotique pour pallier le vieillissement de la population. Je pense au Japon, à la Corée, où il y a plein de métiers maintenant. Enfin, il y a des fermes, par exemple, qui sont entièrement gérées par des machines.
Gain de productivité nul, il faut le savoir. Je veux dire, on est dans une logique qui est beaucoup plus profonde. L'IA est très important, mais c'est un des éléments de l'évolution de nos sociétés. Et il se trouve que le vieillissement et la démographie sont, comme le disait Braudel, c'est l'histoire du monde. Et honnêtement, pour le moment, on n'a pas encore réussi à faire travailler les gens de 80 ans pour être ultra efficaces ou de se substituer complètement. Il y a un moment où il faut, un ébéniste, parce que j'ai pris de mauvais exemples tout à l'heure avec le voiturier, mais l'ébéniste, ça va être difficile de le remplacer par une machine qui fait... Donc, attention, c'est juste ça. C'est pas ni positif ni négatif, c'est juste qu'on est confronté à une difficulté intellectuelle lourde.
Non, moi, je sais, c'est que je ne sais rien. oui, Frédéric,
c'est... Non, c'est le, tu sais, c'est le pape François qui disait on n'est pas dans une époque de changement, on est dans un changement d'époque. Donc, c'est ça dont il faut se mettre en avant. Mais par rapport, on voit plein de métiers au niveau RH. Là, je regardais Moderna. Moderna, voilà, on a évidemment connu avec l'histoire du Covid. La chief AI officer, la patronne de l'IA, elle est devenue chief people officer. Elle occupe aussi désormais la fonction de chief people officer. C'est aussi la DRH. Alors, c'est pas elle qui va faire la gestion du personnel, mais en fait, pourquoi ça? C'est parce qu'elle, ils ont commencé à regarder tous les métiers chez Moderna, les chercheurs, les commerciaux, etc. Et ils ont regardé quels sont vos 12 stages, 15 stages de la semaine. C'est ça. Et bien, on va voir lesquels on peut automatiser avec des agents IA. Et à partir de là, ben elle, comme elle est au courant de ces agents IA, elle dit, ben je vois quel type de profil, en discutant avec les métiers, les chercheurs, tout ça, de quel type de profil on va avoir besoin. Et je pense que là, il y a une vraie réflexion à avoir. Est-ce que le DRH du futur, est-ce qu'il va piloter à la fois des agents IA, à la fois des humains? Enfin, il y a vraiment des choses à se poser. Et dans nos métiers, on doit tous se poser la question. Moi, c'est ce que je dis à tout le monde. Hein. Regarde ton métier, dis-toi quelle est la part qui pourrait être remplacée ou accompagnée avec des agents IA, et puis quelle est la part de rencontres, de discussions ici. Pour l'instant, on a nos avatars, mais on ne les fait pas tourner à plein régime. Mais
c'est le vrai fait, Fred Simotel, là, qu'on a...
Oui. Qui sont remplacés par l'humain. Mais je pense que c'est vraiment la question qu'on doit se poser entre cette part agents IA qu'on va utiliser au quotidien.
On a fini. Alors, j'avais une question sur la souveraineté. Juste, vous êtes sensible au fait qu'il y ait de la souveraineté numérique, c'est-à-dire qu'on ait quand même des solutions bien de chez nous, presque physiquement touchables avec les mains. Quand on parle des data, quand on parle du numérique.
Je pense que c'est important dans un monde.
Je pense que c'est important. Et j'en rencontre des chefs d'entreprise qui le pensent aussi.
Oui. Dans un monde non coopératif, on a vu, par exemple, sur l'énergie, on ne le pensait pas avant d'avoir la guerre en Ukraine. On s'est rendu compte que la dépendance à un autre pays, c'était quand même problématique. Je ne vois pas pourquoi, sur la technologie, on n'aurait pas le même genre de sujet. Donc, être trop dépendant technologiquement de certains pays, ça leur donne un pouvoir sur nous qui peut être utilisé à mauvais escient quand, y compris des alliés, peuvent se retourner contre nous.
Le mot souveraineté, ça veut dire être maître de son destin.
Ah, oui, c'est ça. Mm-hmm.
Évidemment, qui va dire qu'il n'est pas pour la souveraineté numérique? Objectivement, on a dit qu'on ne savait rien sur rien, là, c'est là-dessus. On peut dire que, évidemment, qu'il faut.
Mais dire que c'est évident, c'est déjà un élément important. Ouais. Parce que quand vous demandez à des chefs d'entreprise, ils n'ont pas tous envie d'être chez AWS ou chez Microsoft en termes d'hébergement des données en intégrale dans le cloud, par exemple. Ah
oui. Et surtout, on n'aurait peut-être pas dit ça il y a 20 ans. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on n'aurait pas dit ça.
Même il y a 2 ans.
Octave Labat était avec nous tout à l'heure. On aurait écouté en podcast.
Le patron de VH Cloud, l'a écouté tout à l'heure.
Bon, c'est cette journée spéciale tech qui va se poursuivre aujourd'hui sur BFM Business à l'occasion des 25 ans de l'émission De quoi je me mail. On aura évoqué quelques sujets. Évidemment, on ne peut pas être exhaustif, mais emploi, productivité, réalité dans l'entreprise de l'intelligence artificielle et comment la technologie a été vécue par les Français depuis 25 ans. Merci Cécile Lejeune pour Kantar d'être venu nous voir et de nous avoir commenté ce baromètre. Merci Alexandre Arboulet. On se retrouvera la prochaine fois dans un format classique de l'émission concentré sur l'actualité économique du jour même, évidemment. Jean-Hervé Lorenzi, on se reverra, j'imagine, avant les rencontres d'Aix.
Je ne sais pas.
Ah, il doute.
On
verra son avatar.
Merci à mes deux camarades spécialistes de la tech sur BFM Business, Anthony Morel et Frédéric Simotel, de m'avoir accompagné. Tout de suite, c'est une émission spéciale 25 ans de quoi je me mail sur BFM Business. À demain 9h.
Les experts de la tech sur BFM Business.